France Inter, il est 13h. Le 13-14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, quel sera l'impact de la concession d'Emmanuel Macron sur les retraites? 64 ans peut-être, référendum pourquoi pas? Détail dans ce journal sur les aménagements possibles. Le président candidat, à nouveau au contact des électeurs aujourd'hui. Mulhouse, la ville où on a tant lutté contre le Covid, comme cet aide-soignant.
Avec tout le respect que je vous dois, je le dis bien. On était en souffrance, monsieur Macron. On a sauvé des gens. Je vous assure, c'est dommage qu'ils ne sont pas là, les toubibs.
Mais ils sont là.
Sans eux, un hôpital ne tourne pas,
mais
monsieur le président.
Mais sans vous non plus, hein.
C'est vrai. Vous avez réponse à tout. Je vais vous laisser aller.
Oui. Reportage Maxence Lambrecq. Dans un instant, Marine Le Pen détaille aujourd'hui ses propositions pour la démocratie et l'exercice du pouvoir. Comme Emmanuel Macron, elle aura besoin des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, qu'elle accuse d'être plus doux, Mélenchon, avec son adversaire.
C'est une trahison, parce que ces électeurs, ils attendent de la protection. En laissant penser que Emmanuel Macron doit être réélu, il leur supprime toute capacité, en fait, à être protégé.
La campagne, c'est aussi le message de Nicolas Sarkozy sur Twitter. Il votera Macron au second tour. Dans ce journal, chaque jour, comparaison entre les deux programmes sur un point. Aujourd'hui, l'Europe. L'Ukraine, les Russes ont-ils utilisé des armes chimiques à Mariupol? Les dernières informations avec Eric Biegala. À 13h30, cette question, la guerre en Ukraine place-t-elle au second plan la lutte pour le climat? Centrale à charbon qui continue de tourner, gaz de schiste à la place du gaz russe. Toutes vos questions sur ce thème au 01 45 24 7000 et via l'appli France Inter. Intervenez tout de suite, notre invité dans une demi-heure sera l'économiste spécialiste de l'énergie Patrice Geoffron. La page détente du 13-14, un mot de sport, Djokovic de retour sur les courts de tennis à Monte-Carlo. Et dans C'est une chanson avec Frédéric Pommier, nous écouterons du jazz. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Bonjour Maxence Lambrecq.
Bonjour.
En direct de Mulhouse, le président de la République, le président candidat à nouveau au contact des électeurs après le Nord-Pas-de-Calais hier, l'Est aujourd'hui, et donc Mulhouse où il est arrivé il y a une bonne demi-heure maintenant.
Oui, une fois l'accueil républicain passé, c'est en petite foulée qu'Emmanuel Macron rejoint les personnes accoudées aux barrières pour illustrer son envie de convaincre et d'en découdre ici où il était venu il y a 2 ans visiter l'hôpital de campagne en pleine épidémie. Un aide-soignant de la CGT l'interpelle.
À augmenter les salaires entre 183 et 400 euros par mois. C'est pas des primes. Vous êtes d'accord avec moi, c'est vrai.
Monsieur Macron, j'ai 1776,58 €. Vous voulez voir ma fiche de paye?
Mais je vous crois.
J'ai 30 ans d'établissement, monsieur Macron. Comment vous expliquez ça? Je vous pense à mes petits-enfants.
Est-ce que ce que je vous dis est faux? Est-ce que les rémunérations n'ont pas augmenté?
On ne le ressent pas, monsieur. On nous a donné 183 euros. On ne le ressent pas.
Monsieur Macron, améliorer nos conditions.
Mais alors, bien sûr. Donnez-nous les moyens de sauver, de soigner les gens dans le respect.
Et la santé, puis les retraites, un mètre plus loin, Emmanuel Macron obligé de clarifier sa concession d'hier.
Cet horizon de 65 ans, il a des points de rendez-vous. Ce qui m'importe dans les 5 ans qui viennent, c'est qu'on ait l'équivalent de 4 mois de décalage par an. Si on fait ça, on peut financer notre modèle social. Et donc après, s'il faut des clauses de rendez-vous, des clauses de revoyure, pour ouvrir le jeu, pour donner de la discussion, j'y suis prêt.
Mais donc c'est 64 ou c'est 65? Mais les gens qui vont voter pour vous, ils ont besoin de savoir.
Moi j'écoute. Je continue à écouter.
Je vous dirai dans les jours qui viennent, projet en cours de réécriture, donc 2 pas derrière lui, le président de région de droite, Jean Rottner, qui appelle à voter pour lui, comme Nicolas Sarkozy, mais n'a pas trop apprécié. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas transgresser, dit-il, les 65 ans en font partie. Mais Emmanuel Macron est bien ici, comme hier dans le Nord, pour parler aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon, arrivé à Mulhouse largement en tête dimanche soir.
Et Strasbourg en fin d'après-midi pour parler de l'Europe. Merci Maxence Lambrecq en direct pour France Inter. Alors cette réforme des retraites, 64, 65 ans, référendum ou pas, cela se dessine petit à petit, ça n'est pas encore très net. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour.
Vers où va-t-on, au fond, vers quoi Emmanuel Macron ouvre-t-il la porte?
Alors vers une logique qui serait celle de s'arrêter plutôt dans la réforme et d'aller moins loin, c'est-à-dire qu'elle se ferait au même rythme mais s'arrêterait en 2027 au lieu de 2030. Il s'agirait toujours de repousser de 4 mois par an l'âge légal de départ en retraite, ce qui nous amène à 64 ans en 2027 et à 65 ans si on continue jusqu'en 2030. Ce qui est nouveau, c'est d'introduire une clause de revoyure en 2027, ce qui correspondra à la fin fin théorique d'ailleurs du prochain quinquennat. Mais dans l'équipe de campagne du président candidat, on nous précise bien aussi ce midi que le fond et la philosophie de la réforme restent inchangés. Il s'agit de fixer une trajectoire qui permette de financer le système par répartition et des mesures complémentaires sur la retraite minimum à 1100 euros, les carrières longues et les métiers pénibles. Ce qui est nouveau aussi, c'est la possibilité d'un référendum évoqué hier par Emmanuel Macron, lui qui n'en a pas fait un seul pendant tout son quinquennat, tacle Marine Le Pen. On voit que l'idée fait débat aussi parmi ses soutiens. Certains parmi ses conseillers y verraient une bonne occasion de faire de la pédagogie sur les retraites. D'autres, comme le ministre de l'économie Bruno Le Maire, préféreraient voir émerger un compromis pour éviter de passer par la case référendum.
Et avant de voir la campagne du côté de Marine Le Pen, cette phrase « Je voterai pour Emmanuel Macron », c'était attendu, sans doute redouté par une partie des LR. Nicolas Sarkozy a pris position ce matin sur Twitter. Pas un mot de Marine Le Pen dans son message. Il met en avant l'expérience d'Emmanuel Macron, son projet économique qui valorise le travail, son engagement européen. Une nouvelle époque s'annonce, écrit l'ancien président de la République. Il faudra sortir des réflexes partisans. La fidélité aux valeurs de la droite républicaine et à notre culture du gouvernement doit nous conduire à répondre à l'appel au rassemblement d'Emmanuel Macron. Et Nicolas Sarkozy conclut, on ne se trompe jamais en choisissant la clarté et la constance. Bonjour Anne Souhaitemont.
Bonjour.
Anne Souhaitemont, en direct dans le quartier de l'Assemblée nationale. Alors la famille politique de Nicolas Sarkozy venait péniblement de trouver une position à peu près commune. Pas une voix pour Marine Le Pen, mais pas d'appel à voter Macron. Et voilà que Nicolas Sarkozy prend une position assez différente.
Et oui Bruno, nouveau coup de bambou pour la droite. Débâcle au premier tour, problème financier, division sur le bulletin blanc ou le vote Macron et maintenant un Nicolas Sarkozy qui appelle à répondre à l'appel au rassemblement du président. Le tremblement de terre a commencé, confiait à l'instant un cadre. Alors les élus LR vont-ils suivre Nicolas Sarkozy? Pour Gilles Platré, candidat aux législatives, c'est non.
Je ne répondrai pas à cet appel de Nicolas Sarkozy. La reconstruction de la droite républicaine se passera en dehors de M. Macron. Moi, je crois très sincèrement que si nous rentrions aujourd'hui dans une perspective de majorité macronienne, la droite serait définitivement morte.
Pas question non plus pour Pierre-Henri Dumont, député sortant, qui prend l'air de rien, cette distance avec l'ancien président qui n'a pas soutenu Valérie Pécresse avant le premier tour.
Nicolas Sarkozy est toujours cette figure tutélaire de la droite, évidemment. Mais aujourd'hui, si on veut offrir demain une alternative aux Françaises et aux Français, aux élections législatives, il ne faut pas donner les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron, il faut garder cette indépendance. Et cette indépendance ne peut pas passer par un contrat de gouvernement, par une coalition.
La digue entre LR et Emmanuel Macron tiendra-t-elle? En ONE, on démine, c'était dans les tuyaux depuis des semaines, explique le parti. C'est une position personnelle, pas celle de notre famille politique, ajoute Bruno Retailleau, le patron des sénateurs LR. Mais en coulisses, Bruno, ça travaille. Le nez sur les 4,7% du premier tour, plusieurs députés s'interrogent. Comment faire autrement que de rallier Macron si on veut sauver nos sièges, chuchote un élu.
Anne Souhaitemont en direct avec nous au téléphone, à l'ancienne. Petit souci de liaison technique, mais le fond était impeccable. Et cette question, d'abord la réaction d'Emmanuel Macron à ce soutien de Nicolas Sarkozy, il m'honore et m'oblige, dit le président en campagne à Mulhouse, vous l'avez entendu avec Maxence Lambrecq. Et si le second tour se jouait en partie dimanche de la semaine prochaine dans les campagnes, Marine Le Pen est arrivée au premier tour en tête dans 20 000 communes. Celles de moins de 2000 habitants en particulier ont voté un peu plus pour elle que la moyenne des Français. Parole d'électeurs dans la Manche. Si le département a globalement voté Macron dans une série de toutes petites communes, Marine Le Pen a dépassé les 40, voire frôlé les 50% des suffrages exprimés. Binyville, Jauganville, Biéville. Chloé Martin, France Bleu Cotentin, est allée sur le marché de Bricbec, au sud de Cherbourg. Les deux finalistes sont là au-dessus de leur moyenne nationale dans cette ville. 32% pour le président candidat, 27% pour la leader d'extrême droite. Parole d'électeur de Marine Le Pen à votre micro, Chloé.
Pour Jean-Louis, il est temps que les choses changent enfin.
Il n'y a pas de changement depuis des années pour les augmentations des retraites et tout ça. Avec 1200 euros, je ne sais pas comment les gens ils peuvent survivre.
Les fins de mois difficiles, ça a joué aussi dans le choix de Bernard, un autre retraité.
La voiture ne sort plus. Moi, je connais même des gens, ils mangent de la soupe le midi et le soir. L'essence, ce qu'on mange et tout, ça devient une catastrophe, quoi.
Et sur ces questions de pouvoir d'achat, il n'y a que Marine Le Pen qui l'a convaincu. Aucun autre candidat et surtout pas Emmanuel Macron.
Macron, ça va, on en sort. Il y en a assez.
Un ras-le-bol partagé par un autre Bernard.
Emmanuel, il est bien gentil, mais le discours qu'il a fait hier soir, oulala, il changeait de politique. C'est bien joli de distribuer l'argent, mais celui qui est au bas du rouleau, c'est lui qui paye tout, toujours la TVA, le carburant et le tabac. Et puis les impôts, forcément.
Et avec Marine Le Pen, vous perdiez peut-être un peu moins ?
C'est ce qu'elle a promis.
Bernard a envie de la croire.
Faut essayer. Et si on n'essaye pas, jamais on ne le saura.
Une formule qui revient beaucoup sur le marché, de quoi peut-être convaincre les indécis.
Autre question clé de cet entre-deux-tours, quelle sera l'attitude le 24 avril des plus de 7 700 000 électeurs de Jean-Luc Mélenchon ? À ce stade, les intentions sont les suivantes, nous disait Brice Teinturier de l'Institut Ipsos hier sur France Inter. Un tiers. Un gros tiers prêt à voter Macron, un autre gros tiers s'abstiendrait, un petit tiers prêt à voter Le Pen. La finaliste était ce matin l'invitée de France Inter. Message pour Jean-Luc Mélenchon.
Le comportement de Jean-Luc Mélenchon a été pour moi une source de grand étonnement. Parce qu'il a été plus dur il y a 5 ans face à un Emmanuel Macron virtuel qu'il ne l'a été en réalité dimanche soir face à un Emmanuel Macron réel. C'est-à-dire après 5 ans de démonstration par Emmanuel Macron d'une politique violemment antisociale, eh bien il a été plus proche d'Emmanuel Macron dimanche soir qu'il y a 5 ans. Donc moi, je pense qu'en réalité, dimanche soir, il a plus pensé à lui qu'aux Français, qu'il a choisi l'intérêt de ses élus plutôt que l'intérêt de ses électeurs. En ce sens qu'il est déjà dans les législatives, il imagine être le chef de la gauche, et donc il se fonde sur la seule chose qui est susceptible de les réunir, c'est-à-dire l'anti-lepénisme en réalité. Eh bien, ça, je pense que c'est une trahison.
Marine Le Pen avec Nicolas Demorand et Léa Salamé ce matin sur France Inter. Bonjour Laurence Perron.
Bonjour.
Vous avez suivi la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Rappelons qu'à ce stade, la seule consigne de vote qu'il ait donnée, c'est pas une voix pour Marine Le Pen. Est-ce qu'il ira plus loin ? Appel à voter Macron au nom de la lutte contre l'extrême droite. La base est consultée. Est-ce que les mots de Marine Le Pen qu'on vient d'entendre, Mélenchon plus doux avec Macron qu'il y a 5 ans, sont de nature à déstabiliser ses électeurs ?
C'est pas tout à fait ça. En fait, vous le rappelez, hein, Jean-Luc Mélenchon a dit au premier tour pas une voix donc pour Marine Le Pen, mais en réalité il est allé encore plus loin. Certains s'attendaient le soir même à le voir relever le gant de la colère sociale en appelant à préparer un troisième tour dans la rue. Un 1er mai qui interviendra d'ailleurs une semaine après le premier tour et qu'il aurait pu espérer aussi bruyant que celui de 2017 qui avait déjà d'ailleurs vu pour la première fois un black bloc se former dans les rues de Paris avec la figure démonisée d'Emmanuel Macron pas encore élu. Il n'en a rien été parce que l'insoumis, c'est qu'une part importante de son score, il la doit non seulement à des électeurs de gauche, mais aussi à des électeurs écologistes et une partie de la droite modérée qui a décidé de se servir de son vote pour faire barrage à Marine Le Pen dès le premier tour. Pas question dès lors de jeter de l'huile sur les flammes, d'encourager une colère dont le Rassemblement National est le meilleur réceptacle. À 70 ans, Jean-Luc Mélenchon n'entend pas laisser écrire dans les livres d'histoire qu'il aurait fait la courte échelle à l'extrême droite. Il est plus que probable qu'il s'exprimera d'ailleurs avant le second tour pour le dire encore plus explicitement.
L'interview de Marine Le Pen, grand format ce matin sur Inter, est à réécouter sur franceinter.fr. Elle présente aujourd'hui une nouvelle affiche de campagne. On la voit assise à un bureau, vêtue d'un tailleur pantalon sombre et ce slogan « Pour tous les Français ». Question ce matin de Nicolas Demorand et Léa Salamé. Pourrait-elle gouverner avec Éric Zemmour ? Ce n'est pas une possibilité, répond-elle. L'ancien Premier ministre socialiste Lionel Jospin annonce qu'il écartera Marine Le Pen et votera Emmanuel Macron au second tour. Même choix pour Bertrand Delanoë. Il l'a dit ce matin sur France Inter, l'ancien maire de Paris. Dans un genre très différent, le MEDEF publie un communiqué pour dire que le programme du président sortant est plus favorable à la croissance et l'emploi que celui de son adversaire. Pas de consigne de vote de la CPME, les petites entreprises, mais attention, dit la CPME à l'aventure Le Pen. Dans un registre encore différent, pas de prise de position des évêques de France. Cela ne surprend pas Isabelle de Gaumin, rédactrice en chef au quotidien La Croix.
Déjà en 2017, ils avaient refusé de se prononcer contre Marine Le Pen. Pourtant, en 2002, ils l'avaient fait, hein, contre Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, ils n'interviennent plus, d'une part parce que le Front National s'est banalisé. Hein. On a fait un sondage sorti des urnes qui montre qu'il y a quand même une bonne partie des catholiques pratiquants qui votent aujourd'hui pour les partis d'extrême droite. 40% des catholiques pratiquants, donc c'est beaucoup quand même. La deuxième raison, c'est peut-être un problème d'autorité, c'est-à-dire que les évêques aujourd'hui estiment qu'ils n'ont plus à dire aux laïcs, aux fidèles, ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. la parole de l'Église a quand même été assez contestée, mise à mal par toutes les affaires d'abus sexuels, etc. Et puis la troisième raison, je pense que c'est peut-être la plus importante, c'est qu'ils ne veulent pas diviser. Déjà, tous les évêques ne sont pas d'accord par rapport au Front National, donc ils ont une peur de diviser une communauté qui déjà se rétrécit. Ils ne veulent pas être dans l'affrontement, dans le clivage de cette communauté.
Propos recueillis par Cécilia Arbonnat. On parlait tout à l'heure du message de Nicolas Sarkozy qui annonce qu'il votera Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle. Le maire de Nice, Christian Estrosi, ancien des Républicains, qui est aujourd'hui soutien du président candidat, eh bien, il appelle à un gouvernement d'union républicaine qui intégrerait des représentants des partis qui ont clairement appelé à voter pour le chef de l'État. Je souhaite cela, qu'il puisse participer à la conduite des affaires de notre pays pendant les 5 prochaines années, dit Christian Estrosi. Macron ou Le Pen, chaque jour, le programme des deux comparé sur un point précis. Après les retraites hier, le programme pour l'Europe avec vous, Louise Baudet, deux orientations radicalement différentes.
Emmanuel Macron, l'européiste, contre Marine Le Pen, la nationale populiste, les termes de l'affrontement n'ont pas changé en 5 ans. De sa victoire en 2017, célébrée au son de l'hymne européen, jusqu'à la présidence française de l'UE, qui, sans la guerre en Ukraine, aurait rythmé sa campagne, Emmanuel Macron n'imagine pas un avenir français hors d'une Europe puissance, autonome en matière de défense, d'énergie, d'industrie. Il veut croire que la crise du Covid et la guerre en Ukraine lui donnent raison, du plan de relance européen au réarmement face à la menace russe, en passant par l'achat groupé de vaccins. Face à lui, Marine Le Pen ne préconise plus la sortie de l'UE ou de l'euro, mais les lois françaises doivent rester supérieures aux lois européennes. C'est pour elle la garantie de notre souveraineté et son programme, si elle l'applique, sera en contradiction avec les traités. Retour des contrôles aux frontières sur les marchandises, droits sociaux restreints pour les citoyens de l'UE, réduction de la contribution française au budget européen. À la clé, des procédures lourdes et un risque d'isolement politique, précisément ce qui menace la Hongrie de Viktor Orban, allié de Marine Le Pen.
Au chapitre énergie, dans son programme, la candidate d'extrême droite prévoit de mettre fin au projet de parc éolien et même démanteler ce qui existe. Emmanuel Macron, lui, mise sur l'éolien en mer. Bonjour Célia Quigret.
Bonjour Bruno.
La filière éolienne tenait ce matin une conférence de presse. Y avait-il de l'inquiétude?
Oui, et une volonté surtout de montrer l'utilité des éoliennes. Les démonter, cela suppose que l'État dénonce des contrats qu'il a lui-même signés. Il faudrait exproprier les industriels, les indemniser. Le coût serait de 2,5 milliards d'euros au minimum. Et puis se passer d'éoliennes, c'est aussi fermer des usines en France, réduire l'indépendance énergétique. C'est irréaliste pour Michel Joria, délégué général de France Énergie Éolienne, la fédération des industriels du secteur.
D'abord, on est dans un état de droit, donc il y a un cadre juridique qui fait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi sans s'exposer à des risques juridiques majeurs, à la fois pour l'État et puis pour les producteurs. Donc ça, c'est un point qui est vraiment essentiel et qu'il faut rappeler. Ensuite, deuxième élément, aujourd'hui, l'électricité éolienne, c'est 9% de la production d'électricité en France. On a eu des pics de la semaine dernière à 23%. Donc vous imaginez bien, dans un moment où on manque d'électricité, où les prix de l'électricité sont stratosphériques, qu'on ne peut pas, sans exposer la France et les Français à des risques majeurs, à la fois en termes de prix d'électricité et donc de pouvoir d'achat en termes de sécurité d'approvisionnement, démanteler les éoliennes du jour au lendemain.
Et puis cela supposerait d'augmenter encore plus la part du nucléaire, c'est-à-dire prolonger la durée de vie des vieilles centrales autant que possible et miser sur de futurs EPR. Mais dans tous les cas, il faudra au moins 50% de renouvelables en 2050 selon le gestionnaire du réseau RTE.
Et je le disais, Emmanuel Macron mise sur l'éolien en mer, une 50aine de parcs à l'horizon 2050, mais il prévoit de ralentir la construction de parcs terrestres. Il se donne là aussi jusqu'en 2050 et non plus 2030 pour doubler la capacité de l'éolien terrestre actuel. La campagne électorale est à suivre aussi sur franceinter.fr. Les dernières interviews, les chroniques, les analyses, c'est sur notre site internet. En Ukraine, certes, les troupes russes se sont retirées d'une partie du pays, mais pour beaucoup, dans ces zones libérées, le quotidien reste extrêmement pénible. Dans la région de Kiev, les autorités ont décompté 1222 morts des premières semaines de guerre. Le chiffre est sans doute provisoire, des familles cherchent encore des proches. Reportage dans une des deux morgues de Kiev, de nos envoyés spéciaux en Ukraine, Benjamin Thuot et Thibault Lefebvre.
Deux cercueils côte à côte.
Mon beau-père s'appelait Volodymyr Chirindneshenko et ma belle-mère Nadia Miakouchka.
Devant, seul, le regard figé, des sanglots contenus, Artem, leur gendre, venu reconnaître les corps.
On les a cherchés dans toutes les morgues et on a su qu'ils étaient ici.
L'enterrement a lieu dans l'après-midi à Irpin, une des villes occupées de la grande banlieue de Kiev, les plus touchées par les combats.
Un blindé a tiré sur leur maison, mes beaux-parents sont alors sortis en courant et ils ont été tués par des tirs d'armes automatiques. Les corps sont restés devant chez eux.
Des cadavres criblés de balles, désormais allongés dans des cercueils à l'arrière d'un utilitaire. Ce sont les 147e et 148e victimes enregistrées ici depuis la fin de la bataille de Kiev. Vadim est médecin légiste.
Nous exploitons les empreintes ADN et les empreintes digitales. Toutes ces personnes sont mortes à cause de la guerre. Ce sont des innocents et ils ne méritent pas une telle mort.
Devant la morgue, deux camions, avec dans chacune des remorques une cinquantaine de cadavres dans des sacs mortuaires, à identifier donc, puis à rendre aux familles.
Reportage Thibault Lefebvre, Benjamin Thuot, nos envoyés spéciaux en Ukraine. Parmi les informations de ces dernières heures, 6 personnes tuées par balles retrouvées dans un sous-sol dans la banlieue de Kiev. Et puis le dernier chiffre des exilés, ceux qui ont quitté leur pays selon le HCR, l'ONU. 4 600 000 réfugiés ukrainiens ont fui leur pays depuis le début de la guerre. L'opération militaire atteindra ses nobles objectifs, affirme Vladimir Poutine. Pression sur l'est du pays et la ville de Mariupol, en partie aux mains des Russes après 40 jours de siège. Les Ukrainiens décrivent une situation apocalyptique à Mariupol, des dizaines de milliers de morts, 90% des maisons détruites. Et Eric Biegala, une question monte, les Russes ont-ils utilisé des armes chimiques à Mariupol ?
Alors Bruno, l'alerte avait été lancée par les défenseurs de Mariupol eux-mêmes. Dans un message posté sur les réseaux sociaux, le bataillon Azov, qui tient le terrain sur la zone industrielle d'Azovstal, au sud de Mariupol, avait annoncé qu'un drone russe avait largué hier une substance toxique sur sa position. Annonce complétée quelques heures plus tard par un message vidéo du chef du bataillon Azov, expliquant que 3 de ses hommes avaient été intoxiqués légèrement. L'utilisation d'armes chimiques par la Russie à Mariupol est donc loin d'être avérée pour le moment. Mais elle n'aurait rien d'illogique, la zone industrielle d'Azovstal semble en effet devoir être l'un des tout derniers bastions des défenseurs de Mariupol. C'est un complexe industriel grand comme une petite ville, 2 km sur 3 environ. Des aciéries, un entrelacs de bâtiments industriels et d'usines avec surtout des kilomètres et des kilomètres de galeries souterraines, des bunkers enterrés et 9 niveaux de sous-sol. Tout ça défendu par plusieurs centaines d'hommes. En clair, une position quasi imprenable pour les Russes. D'où la suggestion faite publiquement dimanche par le porte-parole des militaires de la République populaire de Donetsk, Edouard Bassourine, sur la chaîne de télévision Rossi. Il recommandait de faire appel aux unités de guerre chimique de l'armée russe et de gazer tout simplement tout le complexe d'Azovstal.
Et les services britanniques et américains disent travailler pour vérifier et tenter de répondre à cette question. Y a-t-il eu ou non utilisation d'armes chimiques à Mariupol ? Les Européens préparent un 6e train de sanctions. Pourrait-il y avoir un embargo au moins partiel sur le pétrole et le gaz russe ? À 13h30 avec notre invité l'économiste Patrice Geoffron, cette question. Les Européens se préparent à une sortie du gaz et du charbon russe. À quel coût écologique, notamment, est-on en train d'oublier la transition écologique, les centrales à charbon qui tournent, le gaz de schiste américain plutôt que le gaz russe? Autrement dit, peut-on dire non à Poutine tout en tenant les objectifs climatiques? J'attends vos questions 01 45 24 7000 ou via l'appli France Inter, rubrique Réagir. Dans l'actualité encore aux États-Unis depuis hier, le passeport non-binaire est disponible pour tous ceux qui le souhaitent. Nom, prénom et ensuite, pas forcément homme ou femme, Claude Guibal.
Une simple croix à cocher, la troisième dans la catégorie genre, N comme neutre, non binaire, ni homme ni femme. Selon une étude de l'Université de Californie, plus d'un million de personnes aux États-Unis se définissent comme non binaires et peuvent désormais afficher ce choix sur leur passeport sans avoir à justifier leur changement. Les États-Unis emboîtent donc le pas avec 10 années d'écart à l'Australie, premier pays à avoir accordé cette possibilité. L'Argentine, le Canada, l'Allemagne, la Nouvelle-Zélande, mais aussi le Népal et le Pakistan l'autorisent déjà également. Le mois dernier, c'est le Mexique qui a lui aussi franchi une étape en délivrant des extraits de naissance non binaires aux personnes qui en font la demande. La reconnaissance des droits transgenres était une promesse du candidat Biden et la création du genre neutre sur le passeport américain s'inscrit donc dans le cadre de mesures plus large pour la reconnaissance des non-binaires. Des non-binaires qui, toujours selon l'étude universitaire publiée l'été dernier, souffrent au-delà des complications administratives, de violences psychologiques et physiques qui les rendent vulnérables à la précarité.
Voilà pour l'actualité internationale. La campagne électorale et cette dernière minute, les centristes de l'UDI qui ont soutenu Valérie Pécresse au premier tour appellent à voter pour Emmanuel Macron au second tour. L'UDI dit souhaiter un mandat très différent du premier, mais préférer cela au risque de l'effondrement que porte le programme d'extrême droite. Vous avez peut-être eu l'occasion de la découvrir si vous êtes récemment allé au cinéma. Une longue publicité
pour la plateforme Netflix est actuellement projeté sur les grands écrans. Son message pourrait être ainsi résumé. Avec ses 200 millions d'abonnés, Netflix est la plus grande salle de cinéma du monde. Bonjour Alexis Demeyer.
Bonjour Bruno.
Je souris, mais dans une période post-confinement où une partie du public semble avoir perdu l'habitude des salles, la diffusion d'un tel spot avant les films fait forcément grincer quelques dents.
À Paris, en regardant Marriage Story, Julie verse soudain une larme.
C'est un court-métrage d'une minute 45 signé Jean-Pierre Jeunet qui reprend ici la recette de son plus grand succès, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Et l'idée véhiculée par cette pub au budget XXL est bien celle d'un gigantesque multiplex mondialisé où les abonnés à Netflix vibreraient à l'unisson.
Céline imagine tous les spectateurs réunis tous ensemble devant le même écran, débattant avec passion.
Voilà de quoi déplaire à de nombreux professionnels d'un secteur du cinéma actuellement en crise. Depuis la réouverture des salles, très peu de films parviennent à rencontrer leur public. Alors les exploitants qui acceptent de diffuser un tel spot sont irresponsables selon Éric Lagesse, à la fois patron de Pyramide Distribution et coprésident du DIR, le syndicat des distributeurs indépendants.
Personnellement, ça me sidère. Je pense que c'est scier la branche sur laquelle on est assis. Je suis évidemment totalement contre cette publicité qui, en plus, est très bien ciblée, puisqu'en fait, elle parle à des gens qui aiment les films, puisque ce sont des gens qui sont dans des salles de cinéma. Je ne suis pas du tout contre les plateformes. Je peux, moi, avoir aussi envie de voir des films de plateforme. Mais faire de la pub qui va contre son camp, je trouve ça un peu suicidaire.
Et malgré nos demandes répétées, Bruno, les principaux réseaux de salles de cinéma n'ont pas souhaité commenter leur décision de projeter cette publicité.
Alexis Demeyer. Le sport, troisième journée du Masters 1000 de Monte-Carlo avec la fin du premier tour et le début du deuxième. Bonjour Fabrice Abgral.
Bonjour.
Monte-Carlo, la terre battue, c'est bien, ça veut dire que c'est le printemps. Fabrice, le fait du jour, c'est l'entrée en lice de Novak Djokovic, numéro 1 mondial. Il débute véritablement sa saison en principauté.
Oui, c'est vrai, la saison a débuté il y a 3 mois et demi et jusqu'à présent, Djokovic n'a disputé que 3 petits matchs. Le numéro 1 mondial n'a pas été blessé durant cette période, il n'a pas été malade non plus. Non, tout ça, s'il a peu joué, c'est parce qu'il a été directement confronté aux mesures sanitaires liées à la pandémie. Djokovic n'est toujours pas vacciné contre le Covid et c'est pour cette raison qu'il a été exclu, vous le savez, de l'Open d'Australie en janvier dernier et privé au mois de mars de la tournée américaine. Djokovic s'est servi malgré tout de cet éloignement forcé pour s'entraîner comme un forcené durant 5 semaines. Mais les entraînements, ce n'est pas la compétition. Djokovic part un petit peu dans l'inconnu dans un tournoi qu'il a remporté 2 fois. Mais là, il n'a pas de repère, pas de rythme, pas de sensation. Donc premier test aujourd'hui vers 15h30 contre l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina, quart de finaliste l'an passé.
Et côté français, après les éliminations hier de Rinderknecht et Tsonga, il ne reste que 3 Français dans le tournoi. Tous 3 à l'affiche aujourd'hui, Fabrice.
Oui, il y en a un qui a déjà été battu, c'est Benjamin Bonzi, battu en 2-7 par le Britannique Daniel Evans. Hugo Humbert, lui, est actuellement sur le court, opposé à l'Espagnol Pedro Martinez. Il a perdu le premier set, Hugo Humbert. Quant à Benoît Paire, il affronte en ce moment sur le central le jeune Italien Lorenzo Musetti, grand espoir du tennis mondial. Et pour l'instant, 3-2 en faveur de l'Italien.
Fabrice Abgral, en direct du tournoi de tennis de Monte Carlo en foot. Football, suite et fin des quarts de finale de la Ligue des Champions à partir de ce soir. Bayern de Munich, Villarreal. Le Villarreal a gagné 1-0 à l'aller. Et Real Madrid, Chelsea, le Real avait gagné 3-1 à l'aller avec le triplé de Benzema. Demain, ce sera Liverpool, Benfica, Lisbonne et Atlético Madrid, Manchester City. Dans un instant, la météo.
À Pâques, votre petite jouison va encore se chamailler avec Jules. C'est mon œuf. Non. Si. Non. Si. Y a pas écrit ton nom dessus. Eh bien si, justement. Chez Jeff de Bruges, faites inscrire gratuitement son prénom sur un délicieux œuf en chocolat. Jeff de Bruges, à partir de 12 euros l'œuf de Pâques personnalisé. En boutique, en click and collect et par coursier. Rendez-vous sur jeffdebruges.com.
Pour votre santé, bougez plus.
Le droit d'aller à l'école, ça vous paraît normal? Et le droit d'avoir un travail alors? Chez Actual, acteur majeur du travail en France, nous travaillons tous les jours pour vous garantir ce droit. Travail intérimaire, recrutement, accompagnement vers l'emploi, formation. Avec Actual, construisons ensemble votre travail.
Le temps de ce jour.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Suivi préventif, entretien sur site ou en centre, Euromaster est au service de votre mobilité et de votre sécurité.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Il y a encore du vent. Haute-Garonne et Tarn sont toujours en vigilance orange.
Oui, jusqu'en milieu d'après-midi pour le vent d'autant qui persiste, hein, jusqu'à 70 km à l'heure en région toulousaine, 90 à 110 sur le Lauragais, sur la Montagne Noire. Le vent souffle aussi sur les Pyrénées, sur le Massif Central, en vallée du Rhône et en Méditerranée. De la Nouvelle-Aquitaine jusqu'aux côtes de la Manche, là, le ciel est très chargé avec des pluies irrégulières. C'est une nouvelle perturbation perturbations qui arrivent. Alors on aura parfois de l'orage sur les Pyrénées et l'Aquitaine cet après-midi. Ailleurs, le soleil est souvent bien voilé. On trouve encore davantage d'éclaircies en allant vers le nord-est. Sur le Languedoc-Roussillon, beaucoup de nuages et quelques averses poussées par ce vent de sud-est. Les températures, elles sont douces, comptez 16 à 21 degrés jusqu'à 21 à 24 sur le flanc est cet après-midi. Et puis demain, ce sera à nouveau doux, souvent nuageux, parfois pluvieux entre les Pyrénées et la frontière belge. Et puis pour le week-end, on se dirige vers un temps très printanier avec du soleil et de la douceur, de quoi faire une belle chasse aux œufs.
Mais pourquoi pas, merci beaucoup Élodie Calac, puisque ce sera en effet le week-end de Pâques et on retient donc cette vigilance orange au vent en Haute-Garonne et dans le Tarn. Il est 13h30.
France Inter, le 13-14. Bruno Duvy.
Peut-on à la fois réduire notre dépendance européenne à l'énergie russe sans en rabattre sur nos objectifs écologiques? Baisse de 55% des émissions de gaz à effet de serre en 2030. Alors que les ministres européens débattent d'un nouveau train de sanctions, le sixième contre la Russie, et que l'embargo sur le pétrole et le gaz russe sont à nouveau en question, quelques éléments depuis le début de la guerre laissent penser que la prise de liberté vis-à-vis de la Russie pourrait se faire au détriment du climat. Les États-Unis s'engagent à livrer du gaz maison à l'Europe. C'est du gaz de schiste, dont la production est fortement émettrice de gaz à effet de serre. Autre annonce, la fermeture des deux dernières centrales à charbon de France, Cordemais en Loire-Atlantique, Saint-Avold en Moselle, est remise en cause. D'autres partenaires européens font de même avec le charbon, sans parler de la Chine, qui privilégie plus que jamais la souveraineté énergétique à la lutte contre le changement climatique. Rappelons que le dernier rapport du GIEC nous donne 3 ans pour éviter les effets les plus dévastateurs du changement climatique. Alors peut-on à la fois dire non à Poutine et oui à la stratégie climat? Au passage, le même type de questions se pose dans l'agriculture. C'est notre sujet jusqu'à 13h45, 01 45 24 7000 et l'appli France Inter pour vos questions. Notre invité est professeur d'économie à l'Université de Paris-Dauphine, où il dirige le Centre géopolitique de l'énergie et des matières premières. Bonjour Patrice Geoffron.
Bonjour.
Dépendance ou pas dépendance, avant d'entrer dans les détails, il y a une piste simple, dites-vous, comme d'autres, c'est plus de sobriété énergétique incontournable si on veut s'affranchir de l'énergie russe.
Oui, on est entré en guerre et sur le sol européen ou à nos frontières, c'est des circonstances dont nous n'étions plus familiers. Donc ça va nous conduire à faire des choses qu'il y a quelques mois encore, on aurait imaginé comme liberticides, rouler moins vite sur les autoroutes par exemple, se chauffer moins par nécessité, peut-être des mesures également plus contraignantes, par exemple dans l'industrie, selon la manière dont la continuité continuera, sera assurée en termes d'approvisionnement en gaz et puis en pétrole, ou selon qu'on sera dans des scénarios plus chaotiques, dans lesquels les Européens pourraient décider un embargo, dans lesquels Vladimir Poutine pourrait lui-même décider de nous couper le gaz. Bien malin qui peut dire ce qui pourrait se dérouler dans les mois à venir.
Comment vendre, entre guillemets, cette sobriété? C'est pas très tentant sur le papier.
Alors, premièrement, il faut très très clairement avoir à l'esprit qu'au moment où nous parlons, il y a de 5 à 6 millions de ménages qui sont sous la contrainte de sobriété d'ores et déjà. Des ménages qui sont précaires, donc qui ont du mal très concrètement à faire face à l'énergie du foyer. Il y a également des précaires en termes de mobilité. Donc, premièrement, j'allais dire, cette sobriété, elle est imposée lorsque vous regardez notamment les travaux que font la Fondation Abbé Pierre sur le sujet à une partie importante de nos concitoyens. La question est de savoir finalement comment on a une adoption plus large, oui, encore une fois, de mesures de sobriété qui, je comprends bien le sens de votre question, et qui apparaissent comme totalement à rebours de ce qu'on vit, de ce qu'on a vécu au XXe siècle et de la perception qu'on a de la modernité. Ben, premièrement, il faut se convaincre que dès lors qu'on est en guerre, même si ça n'est pas sur notre territoire, il y a une mesure qui sont très très simples, hein, ne pas fermer la lumière ou ne pas consommer un mètre cube de gaz ou ne pas contribuer à consommer un mètre cube de gaz, c'est un acte très très modeste de résistance, mais de fait c'en est un mécaniquement dans l'organisation des systèmes. Et puis plus fondamentalement, on va tout de même au devant de nous, et c'est une certitude, dès lors qu'on importera moins de pétrole, de gaz et d'ores et déjà plus de charbon de Russie, nos importations de fossiles, quand bien même viendront-elles des États-Unis, vont coûter plus cher. Donc on va se retrouver de toute façon avec des prix du gaz et du pétrole en particulier qui seront plus élevés que ce qu'on pouvait anticiper. Donc ça veut dire que tout ce qu'on va pouvoir faire pour s'en passer, eh bien va nous être collectivement utile, va être comparativement moins coûteux passer d'un véhicule thermique à un véhicule électrique, par exemple. Et puis, globalement, être très, très attentif à nos usages conduisant à brûler du pétrole ou du gaz.
Pardon, je retiens ce que vous dites à l'instant sur le véhicule électrique. Ce sera comparativement moins coûteux, dites-vous, que le véhicule thermique. À quelle échéance, si j'ose dire?
Alors c'est compliqué parce que ça.
On a dans un coin de la tête les propositions des candidats à la présidentielle aussi et Emmanuel Macron qui suggère notamment pour les foyers modestes du leasing pour faciliter l'acquisition de véhicules électriques.
Question très compliquée. En deux mots en tout cas, il est tout à fait clair que dès lors que on a dans la décennie à venir plutôt un pétrole probablement accroché aux alentours de 100 dollars plutôt qu'aux alentours de 50 dollars comme ça avait été le cas avant la crise sanitaire, il est tout à fait clair que l'équation économique qui conduit à passer du thermique au véhicule électrique va s'améliorer au bénéfice du véhicule électrique. Après, évidemment, ce qui est affreusement compliqué derrière tout ça, c'est que, si je puis dire avec beaucoup de guillemets, tout ça n'est pas plug and play. C'est-à-dire aller vers le véhicule électrique, ça suppose de déployer des réseaux de recharge et de modifier de fond en comble un système d'approvisionnement pour nos véhicules qui aujourd'hui est thermique et destiné. Et évidemment, il suffit de sortir de la maison de la radio pour trouver dans moins d'un kilomètre sans doute une station ou deux. C'est beaucoup plus délicat globalement à la maille française pour ce qui est de l'approvisionnement des véhicules électriques.
Nicole au standard. Bonjour Nicole.
Bonjour, merci beaucoup de prendre mon appel et merci pour vos excellentes émissions.
Merci.
Voilà. En partie, on a répondu à ma question. Enfin, pour réduire nos achats de gaz et de pétrole à la Russie, est-ce qu'on peut envisager d'aller plus loin que ce que vous avez dit? D'une part, d'interdire les enseignes lumineuses, notamment publicitaires. Il y en a plein dans toutes les villes, par exemple, de 10h du soir à 6h du matin. Ça gêne personne. On peut également interdire l'usage du gaz pour les particuliers, maintenant qu'il commence, la température est agréable, mettons de minuit à 6h du matin. On nous a bien confinés, une bonne campagne publicitaire. Je pense qu'on peut aller plus loin dans les mesures que la simple incitation. Merci.
Merci Nicole. Patrice Geoffron, vous nous parliez de mesures d'économie. Je vous disais, c'est pas très vendeur. Et Nicole en veut davantage. Est-ce que interdire les enseignes lumineuses, interdire le gaz aux particuliers la nuit, par exemple. Est-ce que c'est jouable, si j'ose dire? Et petit 2, est-ce que ce serait efficace? Ça aurait un impact important?
Oui, il y a deux boîtes à outils dans lesquelles on va pouvoir puiser. On va remonter aux années 70, on va se souvenir que dans les années 70, on était conduit à faire des choses qui aujourd'hui apparaissent très étranges. La télé s'arrêtait à 22h30, alors c'est pas nécessairement ce que je préconise, mais à l'époque déjà, ça apparaissait vraiment comme une rupture sous l'effet du choc. Après, il faut se méfier.
Du choc pétrolier. Et
la deuxième boîte à outils dans laquelle on va pouvoir puiser, c'est celle de la Convention citoyenne pour le climat, qui s'est réunie il y a 2 ans, et dont toutes les mesures, dont certaines étaient des mesures de sobriété, notamment par exemple, relativement aux enseignes lumineuses. Et il y a toute une série de bonnes idées qu'il va être intéressant de réanalyser à la lumière de cette crise. Par exemple, ce qui n'avait pas été retenu à l'époque, l'idée de rouler à 110 km/h sur autoroute plutôt que 130 km/h, qui encore une fois à l'époque était apparu comme liberticide dans le prolongement du mouvement des Gilets jaunes et qu'il va falloir réexaminer à la lumière des événements.
Autre question, pardon, votre prénom m'échappe, c'est Christian. Bonjour Christian.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Oui, pour répondre à la crise énergétique, pourquoi n'accélère-t-on pas le recours à l'hydrogène ? Hydrogène vert obtenu par les énergies renouvelables, ce carburant beaucoup moins polluant que le pétrole.
Patrice Geoffron, l'hydrogène, c'est encore 3 fois rien.
Oui, alors il y a beaucoup d'hydrogène, mais l'hydrogène à l'heure actuelle, il est gris.
Voilà.
Il est produit à base de gaz et il est utilisé essentiellement dans la chimie, la pétrochimie. Mais donc l'hydrogène fait partie de la solution, mais toute la difficulté, c'est qu'on a un problème, disons, de concordance des temps. L'hydrogène va faire partie de la solution dans des tas de domaines, dans l'industrie lourde, dans lesquels l'hydrogène gris va être remplacé par l'hydrogène, disons, décarboné, probablement dans la mobilité lourde, pour des poids lourds, pour des trains, par exemple. Donc il y a des tas de choses qui sont en train de fourmiller, mais qui n'auront pas d'impact à l'échelle de la crise. C'est-à-dire que cette crise va nous conduire à minima à 2 ou 3 hivers vraiment très très compliqués. Et de ce point de vue, les filières sont pas matures de telle manière à modifier la donne et à apporter des solutions. Et c'est toute la difficulté avec ce dont nous parlons, qui est de parvenir à positionner les solutions également sur l'échelle du temps et à comprendre, compte tenu de ce bouleversement, ce qui apporte des solutions à court terme ou ce qui, dans le plus long terme, va être absolument indispensable, compte tenu des objectifs européens ultimes qui sont d'être totalement décarboné en 2050.
Le coût d'un embargo total sur pétrole et gaz russe, le Centre d'analyse économique l'a analysé il y a quelques jours de ça. Pour la France, alors qu'il n'est pas le pays le plus dépendant, c'est quelques dixièmes de PIB. C'est évalué à 100 euros par européen et par an, ce qui semble pas énorme. On pourrait encaisser facilement le choc d'un embargo sur le pétrole et le gaz russe, ou si Poutine coupait le gaz et le pétrole.
Écoutez, je suis pour le moins réservé pour plusieurs raisons. Bon, il faut aller regarder finalement dans l'intimité, dans l'organisation des chaînes logistique, industrielle, et voir ce qui peut se passer lorsqu'un maillon d'une chaîne se retrouve arrêté, notamment du côté allemand, et la manière dont tout ça est susceptible d'impacter notre économie. Mais globalement, par rapport aux questions des embargos, je vais être totalement transparent, je suis signataire d'une pétition qui appelle un embargo sur le pétrole au plus vite, notamment parce qu'il y a des solutions de repli sur le pétrole plus facilement que sur le gaz, et puis à réduire autant que possible sur le gaz. Mais si on devait aller vers un embargo sur le gaz, il faut à ce moment-là qu'on ait un plan sérieux. Ce plan n'existe pas à l'heure actuelle. Et pas simplement un plan français, qu'on ait un plan sérieux au niveau européen. Il va falloir notamment avoir beaucoup de solidarité. Cette solidarité, on la voit un peu vacillante du côté d'Orban, peut-être du côté d'une des finalistes de la présidentielle pour ce qui est de faire bloc en termes énergétiques, notamment parce que la France, à ce moment-là, devra s'engager. Mmh. On a la chance, finalement, d'avoir une façade maritime qui permet d'importer plus qu'ailleurs du gaz liquéfié. Est-ce que ce gaz, dans cette hypothèse, on le garderait pour nous? Est-ce qu'on le partagerait avec nos voisins? C'est une grande question qui va déterminer la capacité à faire un embargo.
Comment se fait-il qu'il n'y ait pas au moins un plan, après on l'adopte ou pas, mais au moins un plan pour s'affranchir de l'énergie russe, qui n'existe pas?
Alors ce plan, il est évidemment très très complexe à mettre en œuvre, parce que finalement l'univers dans lequel on vivait jusqu'à maintenant, c'était un univers dans lequel on faisait l'hypothèse qu'on commerçait avec la Russie et qu'on avait finalement des relations commerciales telles qu'on peut en avoir avec la Norvège. Bon, on est en train de découvrir que ça n'est pas le cas, donc il faut de toute évidence un peu de temps pour se réorganiser. Moi, il me semble que ce temps, on a besoin vraiment d'avoir sur la table un plan qui est un plan non pas nécessairement d'embargo, ça pourrait être un plan également d'action si Vladimir Poutine décidait de couper le gaz. Et encore une fois, bien malin qui peut dire avec certitude que le gaz nous arrivera dans la continuité dans les mois à venir.
Est-ce qu'à court terme, je mentionnais dans mon petit texte en introduction, à court terme, ça passe par relancer des centrales à charbon, par utiliser du gaz de schiste? Est-ce que ça passe forcément par une période un peu moins exigeante écologique avant d'en revenir à des objectifs climat plus ambitieux?
Oui, je pense qu'il faut distinguer, disons, la guerre et l'après-guerre. La guerre, cette période-là d'incertitude qui pourrait se prolonger des mois et peut-être au-delà, est une période durant laquelle il va bien falloir faire face à des problèmes de sécurité d'approvisionnement. Donc on voit que la Grèce, par exemple, va puiser plus dans ses ressources en charbon, l'Italie également, que la France va garder un peu plus que ça n'avait été envisagé, des centrales à charbon en fonctionnement. Les choses deviendraient graves si on investissait dans de nouveaux équipements. Par exemple, il y a du gaz dans l'est de la Méditerranée. Peut-être qu'un projet de gazoduc permettrait de nous approvisionner en gaz à partir de l'est de la Méditerranée.
Depuis Israël, hein, c'est ça?
Depuis, à proximité d'Israël, entre Israël, Chypre et le Liban. À ce moment-là, si on va dans cette direction, on s'ancre plus par des mesures qui seront des mesures durables.
Qui engagent sur plusieurs années, sur des dizaines d'années,
Qui engagent sans doute assez durablement et d'ailleurs dont l'avenir est incertain, parce que des tuyaux gazier, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on en a partout en Europe et certains qui ne verront jamais passer un mètre cube de gaz. C'est probablement le cas de Nord Stream 2. Donc il faut faire attention à ces projets. Donc ça doit nous déterminer finalement plus encore à convenir que la seule solution est une solution de développement accéléré des technologies décarbonées, qui est la seule qui nous offre une assurance.
Il n'y a pas eu pour l'instant d'investissement qui nous engage durablement de cette nature-là. Je pense à l'Allemagne qui envisage de construire deux terminaux méthaniers, par exemple, pour traiter le gaz naturel liquéfié.
Oui, alors l'Allemagne, évidemment, est bien dans l'obligation là de prendre des mesures qui viennent se substituer aux milliers de kilomètres de tuyaux qui la relient, qui nous relient également d'ailleurs à la Russie. Donc le fait d'avoir un terminal méthanier est une solution d'urgence. Bon, il faudra voir si ces terminaux sont définitifs ou flottants. Il y a également des solutions temporaires qui peuvent être apportées. En tout cas, de toute évidence, l'Allemagne va avoir besoin de plus de gaz. Toute la question, encore une fois, derrière tout ça est de savoir quelle détermination on va mettre pour répondre à ce qui est absolument certain, même si on a du gaz, il coûtera plus cher,
oui.
Même si on a du pétrole et on en aura, il coûtera plus cher et les prix seront plus instables. Et donc toutes les solutions d'efficacité, de sobriété, de renouvelables et toutes les solutions décarbonées, voilà, vont concourir à la sécurité collective en Europe.
Renouvelable, est-ce qu'on progresse? C'est une des pistes sur lesquelles mise Emmanuel Macron, la technologie, et notamment la technologie de stockage de l'énergie. À chaque fois, on dit oui, les renouvelables, c'est formidable, mais on ne peut pas stocker. Est-ce qu'on progresse?
Alors, on progressera pas pendant la guerre, on progressera sans doute dans l'après-guerre. À nouveau, c'est une échelle de temps dans laquelle il faut essayer d'imaginer à la fin de la décennie quelle pourrait être la capacité de stockage. Et il faut avoir à l'esprit, par exemple, que si on devait avoir, et ce sera le cas, quelques dizaines de millions de véhicules électriques en Europe à la fin de la décennie, ces véhicules électriques ayant bien évidemment une batterie,
oui.
Cette batterie peut entrer dans le jeu du stockage de cette électricité renouvelable. Évidemment, je vous vois m'observer,
on est dans
des systèmes qui procèdent un peu de la
du bricolage.
Non, pas du bricolage, plutôt d'accord. De la science-fiction et de la prospective à l'heure actuelle, mais qui sont pas très loin de la maturité, donc il faut imaginer ces solutions innovantes, mais qui encore une fois sont pas ne procèdent pas de la science-fiction.
Bon, merci beaucoup Patrice Geoffron pour vos réponses parfaitement claires sur ce sujet technique. 13h45.
France Inter. Le 13-14.
Eh bien, bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
On vous retrouve après l'émission spéciale présidentielle d'hier. Le vif de l'histoire dans 10 minutes autour de Jean-Luc Mélenchon.
Sociologie de la France insoumise. Les réponses ne seront pas parfaitement claires.
À tout à l'heure. Le feuilleton de l'entre-deux-tours. Retour pour commencer dans un bureau de Tourcoing. Mélenchon en tête, abstention de plus de 38% à Tourcoing, mais dans le bureau où nous étions, un enthousiasme à voter. C'est bien aussi de montrer le visage solaire, parfois de la démocratie. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
Le compositeur de musique de film césarisé et oscarisé, Gabriel Yared, est à votre micro aujourd'hui. Il a écrit la musique du premier film de son compatriote libanais Jimmy Kérouz qui sort demain au cinéma.
L'histoire, inspirée de faits réels, d'un pianiste syrien qui affronte la violence du groupe État islamique dans une région en guerre où la musique est interdite. Le film a pour titre « Le dernier piano ». Et j'ai tout d'abord demandé à Gabriel Yared si lui se souvenait de son premier piano.
Mon premier piano ne m'était pas destiné. Je me souviens que j'allais chez ma grand-mère, la mère de mon père. Elle avait un très beau piano recouvert de nappes, d'objets, etc. Et quand j'ouvrais pour toucher, elle me disait non, il faut pas toucher. Et quand elle est décédée, elle a légué le piano à ma grande sœur, qui était sa préférée. Enfin, ma grande sœur ne faisait pas de piano. Et donc, c'est devenu mon piano. C'était un vieux Blüthner. Et je sais que c'est devenu vraiment mon confident, mon ami, mon frère, celui qui me permettait de créer, celui qui me permettait aussi de déchiffrer, parce que j'ai déchiffré beaucoup de musique. En fait, je n'ai eu dans ma vie que deux femmes, j'allais dire, deux pianos. Celui-ci, quand j'étais gamin, jusqu'à l'âge de 17 ans, et un piano que j'ai trouvé en arrivant à Paris, qui est un vieux Steinway, 1902. J'étais habité à l'île aux Moines, il m'a suivi, je suis parti à Londres pendant 8 ans, il m'a suivi, et maintenant il est là.
Et c'est un morceau du groupe de jazz Les Double Six qu'a choisi Gabriel Yared, Frédéric.
Les Double Six, oui. Groupe fondé par Mimi Perrin en 1959 avec notamment Christiane Legrand et quatre autres choristes, et une idée extraordinaire, écrire des textes en français, oui. Sur des titres de Big Bang en vocalisant à la manière des instruments. Là, en l'occurrence, c'est un morceau de Quincy Jones, Rat Race, La course au rat, composé pour l'orchestre de Count Basie.
Moi, j'ai découvert cette chanson quand j'étais à Beyrouth. Je devais avoir 12 ou 13 ans. On n'avait qu'une seule radio de langue française où on entendait très peu de grande musique et de belle musique. Et un jour, j'ai entendu ça. Et j'étais complètement fasciné par ce que j'entendais. Puis, je suis parti d'abord au Brésil, puis à Paris. Et à Paris, j'entendais toujours dire « Oh, les Français ne sont pas faits pour le jazz. La langue française ne swing pas. » Et je me suis souvenu de ce titre. Et j'ai cherché ce disque, je l'ai trouvé. J'ai dû le prêter à un ami qui ne me l'a jamais rendu. Et enfin, il est ressorti en CD. Et sur cet album, toutes les chansons sont intéressantes. Mais celle-ci m'est restée parce que je n'ai jamais rien entendu de pareil.
C'est pas la première fois que je me bagarre avec un rat, non. Pas besoin d'aide, gardez donc. Il n'y a pas d'autre moyen d'avoir le rat. Le mot dira qu'il rejoue dans mes provisions. Mais je vous le dis, non, il n'y a pas d'autre moyen. Ça y est, non, il n'y a pas d'autre moyen d'avoir le rat. Le mot dira qu'on rempart tout comme un fou. Mais comme un fou, non, il n'y a pas d'autre moyen. Mais je vous le dis, pas de nîmes, hein. M'avait l'air de ne pas y croire beaucoup, vous ne m'en pas. Je voudrais vous montrer qu'il n'y a pas de baratin. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, pas de malin. Viens, dira, il n'y a pas longtemps, tu sais des bons.
Quand arrive le chorus, l'improvisation, du sax chanté par Mimi Perrin, on dit mais c'est pas possible de chanter comme ça. Jusqu'au bout, même le tutti final, quand elle dit à la fin tu es fichu, tu es perdu, Christiane Legrand chante un contre-sol, ce qui est extraordinaire, voilà. Avec une justesse, avec une perfection. Moi, à un certain stade, je considère que c'est comme Jean-Sébastien Bach. On écoute Jean-Sébastien Bach, il vous élève véritablement. Les doubles six me font le même effet. Il y a la virtuosité, la musicalité, le swing, la poésie d'écriture, l'humour, et puis le bonheur qu'on ressent de ces gens qui adorent le jazz et qui le chantent si merveilleusement bien. Ce qui est très étonnant, c'est que par la suite, j'ai rencontré Christiane Legrand, qui est devenue une amie.
Qui était la sœur de Michel Legrand.
La sœur de Michel Legrand. Et puis, quand Jean-Pierre Mocky m'a proposé de faire la musique d'un film très très marrant, j'ai demandé à Christiane de me mettre en rapport avec Mimi Perrin, et on a reconstitué les doubles six pour chanter la musique du film. Donc, si vous voulez, mon souvenir était tellement éternel, d'une certaine manière, que je voulais les rencontrer, je voulais travailler avec eux.
Saison du plaisir nous entraîne dans la ronde, la ronde des désirs qui ne peut finir qu'en mourant de plaisir.
Les doubles 6 avec les saisons du plaisir et juste avant ça, Rat Race, c'était donc Frédéric, le choix de Gabriel Yared.
Compositeur, entre autres, de la musique du film Le Dernier Piano, en salle demain.
À demain.
À demain.
Le feuilleton jusqu'au 24 avril, ce sera avec Béatrice Duguay, ce sera le feuilleton de l'entre-deux-tours. Parole de français. Sur ce moment particulier de la vie démocratique, on a souvent souligné tout au long de la campagne les tensions, les déceptions, les colères. On les a vues dans les urnes dimanche, les votes extrêmes à un niveau élevé, l'abstention à 25%. Le 13-14 sera à Roubaix jeudi pour parler de l'abstention et se demander que vont faire les électeurs de Jean-Luc Mélenchon arrivés très largement en tête dans cette ville de Roubaix dimanche. Béatrice nous précède dans le département du Nord. C'est à Tourcoing qu'elle a d'abord fait étape. Là aussi, Mélenchon en tête, abstention élevée, 38%. Mais une fois n'est pas coutume, c'est l'aspect plus radieux de cette journée de vote qui nous est présenté ici, dans un bureau de Tourcoing.
La salle de la rotonde.
On a le droit à la grande salle, c'est la salle du conseil municipal ?
Non, la salle du conseil municipal, elle est juste là-bas. Et donc c'est une salle qui a été rénovée et qui est utilisée pour des réunions. William Leroy, je suis directeur de la commande publique des affaires juridiques et immobilières à la mairie de Tourcoing. J'étais dans le bureau numéro 205, donc c'était le foyer menant. Donc ça a commencé très tôt, donc à 8h les gens étaient disponibles, ils attendaient derrière la porte avec impatience pour venir voter. Donc on a vraiment eu une période dense jusqu'à 14h et ensuite ça s'est un peu plus dilué jusqu'à la fin de journée, mais on a senti vraiment un véritable engouement pour cette élection. J'étais là pour déjà vérifier que tout se passait bien et pour accueillir les gens, vérifier les cartes d'identité, les cartes de vote et bien les diriger dans la phase électorale. C'est une grosse machine, hein, les élections. C'est très cadré, c'est très organisé. Et donc on avait un service élection qui était là pour répondre à nos questions et qui nous permettait de rediriger les gens quand ils se trompaient de bureau, mais aussi de vérifier si les gens étaient bien inscrits sur la liste, donc pour les retardataires qui se sont inscrits les derniers jours.
Qu'est-ce que
vous avez ressenti des gens qui venaient voter en ce premier tour d'élection présidentielle ?
Des jeux, c'est un dimanche ensoleillé. Pour la zone B, c'est déjà les vacances. Donc, ils étaient contents d'être en vacances. C'était un peu une sortie familiale. Et donc, les gens, ils étaient contents de venir voter. On dirait vraiment qu'ils attendaient ça avec impatience. Même s'il y avait un peu d'attente parce qu'il y avait beaucoup de monde au début, bah, ils attendaient calmement. Et puis, le masque n'était pas obligatoire. Donc, ça permettait aussi de voir le visage des gens. Et aussi le sourire des gens. Ça a vraiment permis de voir vraiment une foule plus dense dans ces élections parce qu'il y avait plus de participation. Et on l'a vraiment ressenti lors de l'organisation du scrutin.
Le but, c'est effectivement de pouvoir mobiliser ces habitants de la ville. On est dans des secteurs où l'abstention est forte, malgré tout.
Oui, après, on va dire qu'on est en dessous de la moyenne nationale, mais quand on voit la mobilisation qu'il y a eu, on n'a pas l'impression justement d'être en dessous de cette moyenne. On a vu beaucoup de primo-votants, donc des jeunes qui sont venus voter dans notre bureau. Donc c'est quand même très positif. Et vraiment, ouais, une population qui s'est à nouveau déplacée pour venir voter. Donc je pense que le bilan est plutôt satisfaisant.
Quand vous dites jeunes primo-votants, c'était quoi, des 18 ans qui étaient tout juste majeurs ou d'autres que vous n'aviez pas vus jusque-là?
Bah, c'est les deux. C'est des jeunes qui venaient juste accomplir leur premier devoir citoyen, donc ils étaient ravis. Et il y avait aussi des personnes qui n'avaient peut-être pas voté auparavant et qu'ils avaient, on le voyait sur notamment les anciennes cartes électorales, hein, qui venaient, parfois ils venaient avec leurs anciennes cartes électorales, et on voyait qu'il y avait plusieurs élections qui y étaient passées et pour lesquelles ils n'avaient pas reçu le tampon sur leur carte. Donc c'est symbolique, hein, finalement, mais on voit qu'ils se sont à nouveau déplacés pour cette élection présidentielle. Pour nous, c'est aussi une façon de se retrouver entre agents et puis de faire plus ample connaissance avec des autres agents d'autres services qu'on ne côtoie pas forcément tous les jours. Mais l'ambiance est assez détendue. Bon, je fais les 4 dimanches.
Motivé.
Des heures.
Et demain, nouvelle étape de ce feuilleton d'entre-deux-tours avec Béatrice Duguet, 13h55.
France Inter. Le 13-14.
Et parlons à présent du troisième homme de cette campagne électorale et de son mouvement, Jean-Luc Mélenchon, dont les réserves de voix intéressent beaucoup Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le leader de la France insoumise, Mélenchon, mouvement fort, dit-on. Que sait-on de LFI, Jean Lebrun? C'est votre vif de l'histoire. En termes sociologiques.
Ben oui, parce qu'il n'y a pas que le chef et son groupe de proches, les députés qui se serrent sur les bancs de l'Assemblée nationale. Un travail fouillé de Manuel Cervera-Marzal nous en dit beaucoup sur le mouvement qui, initié naguère par le parti de gauche, ne se veut plus parti depuis longtemps. Alors, je préfère le sous-titre du livre, Sociologie de la France insoumise, parce que le titre, le populisme de gauche, pardonnez cette coquetterie de fils du peuple, mais enfin, selon moi, le terme de populisme, ça n'apporte pas grand-chose en matière de théorie. Et en pratique, répété jusqu'à plus soif par les classes dominantes, ça finit par blesser les dominés. Ceci dit, il faut bien reconnaître que Jean-Luc Mélenchon a été dégagiste, plus souvent qu'à son tour. J'ai retrouvé son factum de 2011 dans ma bibliothèque, qu'il dégage tous, étaient visés les satisfaits, les belles personnes, les importants, et parmi eux, les militaires français qui siégeaient inutilement à l'OTAN pour soutenir, je cite, la politique atlantiste contre la Russie, et aussi bien nos bureaux de Bruxelles qu'il aurait fallu, je cite toujours, attaquer au marteau-piqueur. Ceci dit, Jean-Luc Mélenchon est aussi un reconstructeur. Cervera-Marzal observe comment son groupe parlementaire s'est inspiré des travaux de son atelier des lois qui rédige de façon participative des propositions sur des questions données. Et il y a de la cohérence dans son projet intitulé « Programme en commun », c'est une référence à une antique tradition de gauche.
Le mouvement serait aussi composite.
Oui, mais en bon langage de gauche classique, Bruno, dites interclassiste, ou alors front de classe, comme front proposait naguère Jean-Pierre Chevènement. Mélenchon ne veut pas abandonner les fragments de la classe ouvrière disloquée qui, fâchée, n'entend pas devenir facho. Il y réussit, difficilement. Il veut harponner les jeunes par le biais des moyens d'information qu'ils utilisent. Il y parvient bien. Il veut reformuler une vision progressiste du monde à l'usage des classes moyennes et supérieures qui redoutent les replis identitaires. Mais les moyens manquent pour fixer cet électorat aussi volatile que les autres. Il y a bien à la France insoumise un atelier des lois, mais combien d'ateliers de formation? Il y a des actions militantes, qui d'autres collent encore massivement des affiches, mais combien reste faible l'implantation locale durable. Mélenchon et Macron ont ceci de commun qu'ils craignent plus que tout la lenteur. Ils ont joué avec délectation à Chamboultou, c'est pas pour rebâtir une organisation avec des délégations, des fédérations, des timbres d'adhésion, des congrès...
Et des courants.
Oui, alors Cervera, Marzal parle de césarisme. Mélenchon coopte un petit groupe à ses côtés. Pour éviter la création de féodalité locale, il pousse en avant des générations de jeunes ambitieux qu'il va mettre en concurrence quand il ne les met pas de côté, au risque de voir les vétérans en prendre ombrage. Mais la France insoumise est un outil biface. Il faudrait plutôt parler d'anarcho-césarisme. Le chef est traité parfois de leader maximo, mais il donne des orientations générales plus que des ordres. Et par le relais des réseaux sociaux, il ne gouverne pas par ordonnance, mais par influence. D'ailleurs, dimanche soir, il a juste fixé une ligne rouge. Ne pas donner une voix à Madame Le Pen, peut-il aller plus loin avec d'autres prescriptions? Il n'est même pas sûr d'être suivi sur le premier point.
Et là, sans transition, vous allez passer de Mélenchon à Bossuet?
Ben oui, l'aigle de Meaux, c'est un grand orateur, comme Jean-Luc Mélenchon, qui disait « Chacun, dorénavant, se fait de lui-même un tribunal où il s'est rendu l'arbitre de sa croyance. Le libre examen. » Poussé à l'extrême. C'est maintenant le caractère dominant de notre politique qui devient illisible, liquide, insaisissable. Mais dans ce puzzle, Mélenchon figure encore le grand pontife, si je puis me permettre. Il est moins anticlérical ces dernières semaines. Quel effet réel la bulle d'excommunication qu'il fulmine contre l'extrême droite peut-elle avoir? Alors le livre de Cervera Marzal entend montrer que son électorat et celui de Marine Le Pen ne sont pas peureux. La preuve nous en sera donnée ou pas au deuxième tour.
Manuel Cervera Marzal, le populisme de gauche, sociologie de la France insoumise. Donc c'est aux éditions de La Découverte.